Enfin, troisième et dernière partie, nous entendrons Antoine Bout, qui est un bricoleur de langue, qui vit, rêve et sans doute ronfle dans une forêt étrange dans la Belgique. C'est un auteur qui clôturera la soirée par une série d'opérations bio-hardcore dans lesquelles vous serez un peu les cobayes de son enchantement d'écriture.
Bonsoir. Alors j'ai fait ce livre qui s'appelle Opération Bio Hardcore et il manque la lumière qui éclaire mon livre. Ah, je devais faire comme ça. Ah oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi, c'est des questions techniques. Donc, Opération Bio-Hardcore, et alors, à la fin du livre, il y a trois parties, et alors, la troisième partie, c'est un feuilleton, et un feuilleton littéraire classique, quoi, comme ça se faisait à l'époque. Et donc, je vais vous lire des extraits, parce qu'il est un peu long, et je commence, et puis on s'arrête quand le temps est écoulé, d'accord ? Alors, il y a une particularité à ce feuilleton, c'est qu'il y a des titres pour chaque épisode, et alors c'est chaque fois trois mots qui sont issus du texte et qui résument de façon fulgurante l'épisode. Et donc, normalement, si je vous dis les trois mots, vous avez déjà un espèce de résumé comme ça, très très condensé de ce qui se passe. Décor, please, spectre. Tu as 6 ans, tu es en expédition en Suède avec ton père, ta mère, ta sœur, tes frères. Vous expérimentez la migration version ludique. Survie en forêt, avec cependant des moyens techniques précis et légers. Une idée de tes parents activistes qui, depuis qu'ils vous savent, toi, tes frères et ta sœur dangereusement attirés par les fast-foods de la ville, n'en loupent pas une pour vous habiller la vie de trucs et astuces pour la rendre étonnante, profonde et sensible à tout moment. Vous circulez à vélo à travers les forêts de Suède. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Tout va bien, sauf qu'il commence à être temps de trouver un endroit pour camper cette nuit, car vous, les enfants, fatigués. Tu as 6 ans, cette expédition te botte, mais oui, tu fatigues sérieusement. Or, entre les buissons, les fougères, les plantes, tu remarques un endroit qui te plaît bien et même beaucoup. Un ensemble disparate de bâtiments en bois à l'abandon, rongés par la végétation et dispersés sur des collines autour de ce qui semble avoir été un terrain de foot sablonneux. Hé les gars, dis-tu à ta famille, on dormirait pas là-bas? Regardez, c'est grand, il y a plein de places et même une plaine de jeux trop cool. Allez, please, venez, on y va, on s'installe là, c'est grand. C'est comme dans un film, on se croirait dans un décor de cinéma abandonné, déclare ton père. Il se prend une gorgée d'aquavit et va explorer les environs. Il s'agit en réalité d'un lieu pour colonie de vacances dans les bois, mais qui semble effectivement abandonné. C'est un décor ? Non, ce n'est pas un décor, mais on dirait un décor, empaqueté sous une voûte de feuilles d'arbres, d'où le manque de lumière directe, ce qui donne au tout un côté éteint, inquiétant. Il y a là des chambres dans des pavillons, des chambrettes toutes mignonnettes, mais c'est étrange parce qu'il n'y a pas un humain à des kilomètres à la ronde, vous dites-vous. C'est fantomatique. Le spectre des humains rôde ici et c'est ça qui est cool. L'absence-présence de l'humain. Ça nous plaît et nous fait flipper à la fois. C'est louche. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a personne ici? Toute la famille tripe là-dessus. Toute la famille à sa manière. La mère s'imagine disparaître pour expérimenter ce que ça fera sur la psychologie des personnages de sa famille. Les enfants pensent inévitablement à Hansel et Gretel et d'ailleurs ramassent déjà des cailloux en prévision d'eux. Surtout qu'il y a là un chemin en gravier blanc tout à fait adéquat pour se remplir les poches. Les graviers mènent au lac en contrebas. Hop, tout le monde à poil, l'eau plonge dans l'eau rouge. Oui, car l'eau du lac est inexplicablement rouge. Probablement à cause d'un certain type de roche, suppute ta mère. Ça ressemble quand même vachement à un décor de film d'horreur, objecte ton père. Paf ! Fin d'épisode. Et donc là, je vous donne le titre, déjà, avant de boire un petit coup. Planète, Salto, Colline. Tu as 31 ans, certes, tu es entrepreneur de pompes funèbres expérimentales, mais ce métier te fatigue, alors en plus tu es poète. Poète expérimental, plus précisément. Dans la mesure où tu réfléchis en acte aux impacts sur le réel du travail de la langue. Avec ta femme activiste, vous avez publié, en toutes sortes de langues, simultanément et un peu partout dans le monde, grâce à une série d'éditeurs convaincus, un opuscule titré « En avant pour la révolution bio-hardcore !» Manuel pratique pour, au niveau macropolitique, sauver la planète en transformant toutes ces forêts et terrains vagues en états indépendants non anthropocentrés. Et, au niveau micropolitique, faire tendre la vie humaine vers son noyau hardcore dur, animal, organique, matériel, nucléaire. Manuel complet, mégalo, entraînant, hypnotique, efficace et drôle. Normal que ce livre connaisse le succès auprès de la jeunesse humaine du monde entier. Avec vos parents, avec vos enfants, pardon, vous parcourez les forêts suédoises à vélo pour vous changer les idées et en trouver d'autres. Vous plantez vos tentes pour la nuit dans le terrain de foot rongé par la végétation d'un centre aéré abandonné et perdu dans les bois. Vous passez la nuit là et le lendemain, ta femme dit « Baby, je vais faire des courses dans la ville qu'il y a là plus loin. Tu t'occupes des enfants ? Vas-y, no stress, fais péter la thune. Amuse-toi bien et n'hésite surtout pas à nous ramener plein de trucs marrants. » Elle enfourche son vélo, tandis que tu t'installes avec les enfants au bord du lac à l'eau inexplicablement rouge qui troue le paysage, là, plus loin. Les enfants jouent, les enfants barbotent, font des saltos arrière depuis le ponton et creusent des trous. Tout va bien. Il fait beau, il fait chaud. Tu t'es fait un café, avec pour conséquence cette évidence, il faut que tu ailles faire caca. Hé les enfants, je vais faire caca, vous restez ici, ne vous noyez pas, hein. Et tu y vas, et tu prends ton cahier, ton fidèle cahier d'écrivain qui t'accompagne partout. Tu explores les bords du lac en vitesse et hop, remarque là, un sauna, comme les Scandinaves adorent en fabriquer au bord de leur lac, avec en annexe, comme par miracle, des toilettes sèches. Tu pousses la porte, l'ambiance est désuète, papier peint estonien au mur et vinyle russe par terre, quelques mouches, quelques toiles d'araignée et un trône surplombant une impressionnante colline d'étron. Tu t'installes, instant magique où tout bascule, et tout bascule en effet puisque tu es happé par la magie de l'endroit. Inspiré, soudain, lourdement inspiré, tu saisis ton cahier et te lances dans un texte de malade, un texte vraiment dingue qui du coup prend des plombes à s'écrire. Tu écris, tu quittes l'espace-temps et ses problématiques spécifiques, tu te déconnectes, tu es dans un trip, le grand trip de l'écrivain au travail. Or, tout en écrivant, tu te dis que les enfants vont finir par s'inquiéter de ton absence, mais... problème, tu es auto-hypnotisé par ton histoire, tu n'arrives pas du tout à décoller de là. Plusieurs dizaines de pages, plusieurs heures de trans-écriture plus tard, tu sors, enfin, vide, plein et content. Or, effectivement, les enfants ont disparu. Paf, fin de chapitre. Crise Bush Akabi. Tu as 11 ans, tu es grec, ton père s'est suicidé de désespoir à cause de la crise, c'était à l'époque de la crise. Ta mère décide de t'abandonner dans la rue avec ta sœur, dans l'espoir que l'un ou l'autre riche, pas trop pervers, vous offre un avenir meilleur, puis part se prostituer. Vous êtes à la rue, c'est l'angoisse, Dès la première nuit, vous vous faites violer. Et les humains, allez vous faire foutre avec vos problèmes à la con, vos guerres, vos crises, votre libido. Nous, on dégage, on vous emmerde. Nos amis, notre famille, maintenant, ce sont les plantes, les animaux, les trous dans la roche, les flaques, les cours d'eau. Allez tous vous faire foutre, pensez-vous. Et vous quittez Athènes en direction du nord. En chemin, vous volez dans les champs, les jardins, les poulaillers, les poubelles. Un jour, tu assommes à coups de bûche par derrière un gardien de supermarché s'acharnant sur des gamins syriens, orphelins, réfugiés venus fouiller les invendus. Vous sympathisez et volez son smartphone au type dans les pommes. Pratique pour aller sur Internet, choper plein d'infos sur comment survivre sans argent. Pratique pour finalement découvrir par hasard l'existence aussi de « En avant pour la révolution bio-hardcore », livre qu'il vous semble indispensable d'aller voler quelque part. Et voilà, vous êtes maintenant une bonne petite bande bien soudée, bien invisible, bien à distance du monde des humains, ce monde humain, trop humain, beaucoup trop nul, insipide et chiant pour vous. Vous faites bande avec quelques chiens sauvages d'une intelligence rayonnante et n'hésitez pas à embrigader d'autres jeunes dans l'équipe qui s'enflent en toute discrétion, tandis qu'elles remontent vers le nord. Vous remontez vers le nord et lisez « En avant pour la révolution bio-hardcore ». Vous interprétez le bouquin à votre sauce et trouvez marrant de faire exploser, de nuit, les supermarchés et centres commerciaux que votre route croise pour en faire, pourquoi pas, des terrains vagues parmi les ruines desquelles vivre, en se nourrissant notamment des orties qui ne manqueront pas d'y pousser. Lorsque vous pénétrez en Suède, vous êtes tout un peuple, incroyablement discret, incroyablement hardcore et d'une sauvagerie incroyablement convaincue. Et les amis, regardez quelle classe à ce lac rouge. Allons nager, boire et nous laver là, ça va dépoter. Les chiens prospectent les lieux et sont convaincus. D'autant plus convaincus qu'ils se lient immédiatement d'amitié avec 4 enfants bien à fond, s'appliquant à faire des saltos arrière depuis un ponton donnant sur le lac ou à goûter les fourmis et les lombrics du coin. Vous faites connaissance, vous sympathisez, vous passez ensemble plusieurs heures de bon temps. Or, problème, impossible de les embrigader. Ils vous expliquent que leurs parents aussi sont bio-hardcore et tout, qu'ils ne voient pas trop pourquoi ils les abandonneraient soudainement. Putain, on les prend de force alors ! Crient les ex-enfants soldats d'entre vous. Car oui, vous comptez dans vos rangs bio-hardcore des ex-enfants soldats bien barrés, bien flippés à l'idée que le monde adulte ait connaissance de votre existence. Alors voilà, solution de compromis, vous les emmenez de force, mais leur dites-vous, c'est pour faire une blague à vos parents. Fin de chapitre. Souder, rôder, pénétrer. Tu as 31 ans, tu es une activiste aventurière et mère précoce de famille. Tu as organisé une expédition de plusieurs semaines à travers les forêts suédoises à vélo pour souder ta famille, tout en gardant ton mec loin de toute source facile d'alcool, le pauvre étant, selon toi, légèrement alcoolique. Un jour, comme tu voudrais t'acheter quelques fringues, tu t'arranges pour que tout le monde ait envie de passer la nuit pas loin d'un lac bien sauvage repéré sur la carte, à proximité cependant assez immédiate d'une petite ville contenant un ensemble de magasins susceptibles de t'intéresser. Tu es seul dans les rues et les magasins de la ville. Tu vois passer des armées de jeunes filles suédoises en mini-shorts troués et barésies. Tu te dis, mon Dieu, qu'elles sont belles. Je vais m'habiller comme elles, tiens. Bonne blague pour mon mec. Je m'arrange pour que de loin, il ait l'impression qu'une superbe fille du coin rôde exprès autour de lui, curieuse de voir sa réaction. Hop, ni une ni deux, tu y vas. Tandis qu'à ton insu, ton homme flippe sa race, cours autour du lac rouge et hurle les noms de vos enfants disparus. Tu y vas, tu t'attifes, tu soignes ton look, ça marche. Tu es vraiment trop belle, trop bonne et excessivement attirante. De retour à votre lieu de campement, tu soignes l'apparition parmi les ombres et les fougères d'une petite roqueuse punkette barésie, longs cheveux blonds et briefés. Clairement se pose la question de l'allure, silhouette, apparence, l'efficacité stylée de la ligne pour capter le regard, pénétrer le regard par la sculpture d'une image cheval de Troie, chevauchant le désir interne de celui qui regarde. Par ton allure, tu joues avec ça, blagues avec ça, sèmes le trouble. Pourquoi ne pas mettre à plat la question de la libido, là, en forêt, en famille? Pourquoi pas? N'est-ce pas drôle de questionner l'adultère, l'irrévocable force d'attraction propre à la jeunesse, les doses massives de désir dont Dame Nature nous charge les hormones? Oui, bien sûr que c'est drôle, te persuades-tu, paradant dans les ombres et les taches de lumière. Or, ton mec, de son côté, s'esquinte plutôt à gueuler, ivre de panique, mort de stress du côté du lac en contrebas. Pour la 15e fois, il remonte le chemin et revient à l'endroit de camp, n'y trouve pas ses enfants, mais aperçoit par contre au loin ce qui semble être une jeune fille, certes très sexy, mais surtout susceptible d'appeler les secours et de l'aider à retrouver ses enfants. Il s'avance résolument dans ta direction en faisant de grands signes. Putain, te dis-tu, ne te doutant de rien, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi martial à la hussarde dans sa démarche d'approche et de séduction. S'ensuit tout un jeu d'évitement complexe de ta part. Tu apparais, disparais, l'air de rien entre les ronces et les fougères. Tu es jouette et monsieur a vite compris ton manège. Le pauvre se dit « Oh putain, c'est pas vrai, il va falloir draguer, jouer les princes charmants, faire semblant de vouloir baiser si je veux obtenir l'aide pour sauver mes enfants. » Fin de chapitre, évidemment. Je sais pas si quelqu'un a un chrono en main, je sais pas où on en est dans le timing, mais si à un moment donné il faut que je m'arrête, il suffit de le dire. Hein. Parade, gorge, plainte. Tu as 4 ans, tu es une élan femelle au tempérament curieux. Tu as remarqué un petit attroupement d'humains installés dans ta zone d'existence, alors tu te caches discrétos dans un buisson bien placé pour observer leur manège. C'est très intéressant cette parade qui semble nuptiale entre cette femelle et ce mâle, apparemment en pleine période de rut. Tu regardes les manœuvres tactiques d'apparition et de disparition de la fille. Quelle grâce, quelle intelligence, quel raffinement subtil. Le mâle, par contre, te semble moins à l'aise. Il dégage un sale type de phéromone. Oui, étrangement, les phéromones de l'angoisse te pénètrent les narines, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu renifles, puis éprouves dans les méandres de tes viscères ce qui se trame dans ceux du type d'en face. Une intrication étrange d'affect lié à de la solitude bizarrement sculptée, pétrie d'inquiétude monstre. Tu ne le sais pas, mais le pauvre vient de perdre ses enfants suite à une défécation trop longue pour suite d'écriture un poil trop jouissive. Comme tu ne sais pas non plus que le pauvre se trouve présentement dans l'obligation de déployer des trésors d'imagination pour séduire efficacement une fille qu'il croit aux prises avec une libido un peu trop à fond. D'ailleurs, ne voilà-t-il pas qu'il se mette au travail? Tu peux pas le savoir, mais monsieur, en tant que poète expérimental, pratique le pornolettrisme. Et pratiquant le pornolettrisme, il fomente en gorge, ventre, bouche et poumons un long son vocal bien rond, bien coriace rauque, mais plaisant, grave, comme tu aimes, dans les brames de tes copains élans mâles en période de rut. La période de rut n'a pas commencé pourtant, mais putain, ce type est balèze, te disent tes viscères, tes hormones. L'efficacité libidinale des sons sculptés par ce type t'impressionne vraiment beaucoup l'intérieur. Le bras me long. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un peu gênant parce que c'est tellement facile, c'est tellement premier degré et tout. Je m'étais juré que je ferais jamais ça et finalement je l'ai fait quand même. Je suis désolé. J'ai un peu pitié de moi là. Je suis un peu gêné. Oh là là, désolé. Non, c'est vrai. C'est vraiment con. Non, en général, c'est plus. Non, mais bon, c'est bon. Merci. En général, il y a plus. Vous voyez, parce que là, c'est vraiment illustratif, premier degré. En général, c'est plus subtil, quoi. Vous voyez, bon. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, le Brahme est long, puissant. Puissant, quoique subtil et d'une générosité déroutante. Vous voyez, enfin, voilà. Bon, c'est. Il y a un truc qui se passe là, c'est sûr. Là, c'est vraiment... bon, je vais essayer de terminer le texte, hein. après on arrête. Mais bon. Il y a un truc qui se passe là, c'est sûr. Te voilà en proie à l'irrésistible envie d'entonner toi aussi ton chant de rut. Tu as beau être farouche, discrète et timide, cette envie te travaille alors qu'il n'y a à ta connaissance aucun autre élan à la ronde. My God, comme c'est fort! Tes organes sont secoués par des salves d'hormones, d'autant plus intenses que les modulations du chant se font plus insupportablement sincères, évidemment puissantes et douloureusement fusionnelles avec tes pulsions. Putain de bordel de merde, ça y est, tu n'y tiens plus. De tes entrailles surchauffées s'échappe, bien malgré toi, comme une plainte, une mélodie plaintive aiguë, profondément nasillarde. Alors là, je sais même pas quoi faire, parce que ça, j'ai trouvé sur Wikipédia le chant de rut de la femelle de l'élan. Donc je sais pas à quoi ça correspond tout à fait bien. Enfin, bref. Miracle des miracles, le poète clairement apprécie immédiatement l'intensité nue de ce qu'il croit être le chant réponse de la jeune fille et module le sien en fonction. La source sonore prend, c'est l'évidence. Tout être vivant qui aux alentours possède le sens de l'ouïe savoure la beauté tendue de votre rencontre. Pauvres humains, les voilà bien étonnés lorsque par jalousie, soudain, tu jaillis, super agressif de ta planque et charges la fille tête baissée, l'obligeant à fuir à toutes jambes en hurlant. Je me demande si on a... excusez-moi, je parle aux organisateurs. Je crois qu'il faut que j'arrête, non ? Comment ? Encore un petit chapitre ? Ok. Ouais, parce que c'est encore un peu long, hein, mais. Constitution, passe, handicap. Tu as 43 ans, tu es généreuse, c'est physique. Même ta constitution organique l'est. Peut-être d'ailleurs s'agit-il d'une générosité induite par celle-ci, qui sait ? Une bonté naturelle émane de ton existence. Ta respiration, ton regard, ta bouche, ta mâchoire, tes formes sourient de concert et c'est beau. Cette bonté naturelle t'habite, notamment quant à la compréhension des énergies sexuelles traversant les représentants mâles de la race humaine. Une empathie particulière pour la libido d'autrui, une intelligence spécifique ont mûri en toi face à ces fragilités, souffrances, misères sexuelles. Par ailleurs, tes capacités organisationnelles sont parfaites. Tu gères les équipes avec une aisance déconcertante, avec toi aux commandes, zéro conflit, pas même financier, puisque tu es également une excellente gestionnaire. Tu as 43 ans, tu es suédoise, ton amour, ton affection sont amples, larges, ils s'étendent à la nature entière. Tu aimes la nature, toutes les formes de vie qu'elle a cru bon de sculpter t'intéressent, et notamment, pourquoi pas, les déviances, individus anormaux, handicaps en tout genre. Tu as 43 ans, tu es chef d'une entreprise offrant des services d'assistance écosexuelle aux personnes handicapées. Tu es basé aux abords d'un lac suédois à eau rouge excitante, inquiétante et très utile pour arroser le gigantesque potager que tu gères de concert avec tes employés et clients. Immersion sexuelle, affective et agricole dans le grand corps généreux de Dame Nature. Voilà le principe de ta petite entreprise. Les assistantes et assistants sexuels qui travaillent avec toi partagent tes qualités. En plus d'être drôle et diaboliquement intelligent, c'est un plaisir que d'être client chez vous. Enfin bref, un jour, tu prends le soleil, nu sur ta terrasse, en bordure de forêt, lorsque soudain, tu te sens observé. D'un brusque regard vers l'arrière, tu surprends une petite armée de têtes d'enfants en train de disparaître derrière un bosquet. « N'ayez pas peur, venez, venez, mes petits !» leur dis-tu, nu, mais ils préfèrent dégager. Comme tu t'es levé, tu en profites pour faire un tour du potager. En chemin, tu croises un client trisomique et une assistante, main dans la main, hilar. Il fait beau, il fait chaud, l'été bat son plein, les oiseaux chantent. « Aïe merde, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir » t'exclames-tu en suédois une fois arrivé au potager. En effet, celui-ci a été presque complètement pillé. Il ne reste par exemple plus que 11 poireaux sur les 560 plantés. C'est une catastrophe et c'est triste. Un bâton est planté au milieu, auquel pend un petit mot. La révolution bio-hardcore gronde et vous présente ses excuses. Te voilà prévenu, le petit peuple expérimental discret des forêts, constitué d'enfants semi-sauvages de toute acabie et tous lecteurs du livre « En avant pour la révolution bio-hardcore », ce petit peuple est dans la place, te voilà prévenu. Mais ce n'est pas tout. S'élève maintenant dans les airs un grondement barbare, borborygmique, complètement renversant. Tes entrailles s'envoient trouées, traversées, secouées, pieds par-dessus tête. Ton cerveau, tes connexions neuronales, ton nerf optique et la grande toile de tes nerfs sont radicalement chamboulés par ce vent sonore, disons, bio-hardcore. Ne pensant même pas à t'habiller, tu te diriges vers sa source. « Bonjour monsieur, j'aimerais vous engager dans ma maison de passe. »
Voilà.
J'en fais une dernière parce que je trouve qu'elle est marrante, celle-là, la dernière. C'est pas un bon chapitre pour clôturer. Ça vous dérange pas ?
Okay.
Pare-brise, genou, soif. Tu as 23 ans, tu es suicidaire, anarcho-autonome et socialement inadapté. Des films de Werner Herzog, tes préférés sont Aguirre et Grizzly Man. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est bien, Grizzly Man. Une nuit, suite à une tentative ratée de coupage de tes veines, tu décides de voler la voiture de tes parents pour disparaître gelé le plus près possible du pôle Nord. Débrouillard de première, sauvage au dernier degré, tu n'as plus qu'une pulsion, c'est foncer tête baissée dans le paysage au volant de la vieille bagnole de tes parents. Au moindre coup de mou, tu te sers une dose dans l'énorme réserve de drogues excitantes contemporaines que tu as prises avec toi. La route, les arbres, les lumières défilent à la vitesse de ton inertie mentale. Ton mental est inerte et braqué. Ta réserve de drogues excitantes semble inépuisable. Tes muscles se confondent avec le moteur de ta bagnole. Ton bourdonnement cérébral avec son ronronnement neutre. Tu tiens comme ça une semaine. Siphonne les réservoirs sur les parkings, grignote de temps en temps un truc dans une poubelle, t'endors parfois quelques heures en sniffant des émanations d'essence. Un jour, je tiens à dire que je me suis basé sur des personnages réels, évidemment, c'est pas une blague, je vous le présente, il s'appelle Daniel. Un jour, et ça aussi c'est réel, vous allez voir, enfin bref, excusez-moi. Un jour, à un carrefour, au milieu de nulle part, surgissent de nulle part des enfants roms d'une beauté farouche indescriptiblement intense. Ton épuisement général te fait accéder à des états de sensibilité insoupçonnés. Tu les regardes dans les yeux, ils te regardent dans les yeux. Instantanément, le monde bascule autour de vous. Le monde tourne et respire sauvage autour de vous. Ils sont là pour te laver le pare-brise, prennent leurs éponges et écrivent en miroir « bio-hardcore ». Puis te réclament de l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu leur dis. Ça les énerve. Ils tapent à mort sur tes vitres avec leurs outils. Tu gueules, allez vous faire foutre, et démarre en trombe. Or, ils se ruent sur ton capot et à plat ventre tapent comme des malades sur ton pare-brise. Tu en es dans un état second, tu gueules, ils tapent et tapent bien forcené. Tout en les insultant, tu tombes cependant soudain complètement sous le charme du visage d'une des jeunes filles qui s'échine à taper sur ta vitre comme une jument donnerait des coups vigoureux mais érotiques coups de sabot. Son visage, oui parce qu'elle apparaît avant dans le bouquin, c'est pour ça, avec des histoires de juments, de son visage émane très précisément une grande puissance couplée à une vive inquiétude. Votre face-à-face dure quelques secondes éternelles, pendant lesquelles, grâce aux manches en métal de sa raclette, la fille finit par faire exploser la vitre. Comme tu accélères encore, toute cette petite bande se trouve propulsée à l'intérieur du véhicule. 3 secondes après, tes réserves de drogue ont disparu. Tu gueules comme un âne. Ils rigolent. Ils rigolent en gueulant. Tu gueules en les insultant. Mais tes insultes se font bienveillantes. Tu gueules bienveillant, puis rigoles en gueulant. Tout le monde rigole, tout le monde gueule. Un insupportable vent froid lacère vos gorges, vos oreilles et pénètre les orbites de vos yeux. Ça donne super soif. Tu as soudain une soif du tonnerre de Dieu. Eux aussi d'ailleurs. Ce qui fait que vous partagez leur unique bouteille d'eau, mais ça ne te suffit pas. Tu gardes la bouche largement ouverte et leur fais signe d'y verser du liquide. La fille à la beauté si insupportablement sauvage, puissante mais vivement inquiète, a une idée. Elle s'assied à côté de toi et à genoux sur son siège, te crache dans la bouche, crache et recrache, ses longs cheveux noirs te strient le visage. C'est excité comme un coucou que tu percutes, sans même l'apercevoir, un élan femelle poursuivant furieusement une jeune femme affolée. Ta voiture écrase l'élan, tandis que tu traverses le pare-brise, projeté droit sur la fille. Les enfants sont indemnes et disparaissent dans la forêt, rejoindre qui l'on devine. Et blablabla, ça continue.